5 minutes, c'est l'heure bleue sur France Inter. Laura Adler, bonsoir.
Merci et bonsoir à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Je suis née un jour de neige dans le blanc de la raison, sans amour et sans haine à perdre la raison, dans le paradis blanc des illusions de l'éternelle innocence, dans un monde entendant les souffles jaillissants des profondeurs de la nuit sur la colonne vertébrale du globe terrestre. Ce soir, dans l'heure bleue, nous recevons la réalisatrice Julie Bertuccelli et le metteur en scène de théâtre Pierre Meunier. Et nous allons parler d'un nouveau génie, Babouyek. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec Michael Kiwanuka, One More Night.
I'll be
Julie Bertuccelli, vous êtes réalisatrice, auteure de plusieurs films, aussi bien des documentaires que des films de fiction. Le premier film qui vous avait fait connaître et reconnaître avec un grand succès, c'était un film qui s'intitulait « Depuis Cotard est parti ». Et il s'agissait d'un homme avec qui vous aviez travaillé, Yotar Yoselani.
Voilà, un grand clin d'œil à ce génial réalisateur.
Ce génial réalisateur qui, hélas, tourne très peu de films.
Oui, mais il continue tous les 2 ans, 3 ans, il en fait un tranquille. Il concocte dans son coin ses storyboards, ses petites histoires. Là, il est encore en train d'écrire. Voilà, c'est de plus en plus dur parce qu'il est tellement hors norme, hors circuit. Il a sa petite musique tellement particulière que voilà, c'est plus très facile dans le monde actuel. Mais voilà, il est toujours là.
Vous avez aussi réalisé des films à partir d'adaptations de textes, et je pense notamment à ce bouleversant film qui s'intitulait « L'arbre ». Mm-hmm. Puis vous aviez fait « La cour de Babel », et c'était en 2014. Et puis ce film qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'intitule « Dernière nouvelle du cosmos, histoire de Babouyek mm-hmm. ». Alors on va parler de Babouyek tout au long de cette émission, mais on va parler aussi de chacun de vous. Pierre Meunier, vous êtes... À la fois, acteur, auteur, metteur en scène, inventeur d'une forme de théâtre que vous avez inventée au fil du temps. Je crois que vous avez commencé par le cirque et puis vous avez travaillé aussi bien avec La Volière Dromesco, Zingaro, Joël Pommerat, Pierre Etex, Stanny Fratellini. Et petit à petit, vous avez inventé, un peu comme Julie Bertuccelli, votre forme artistique. Et vous donnez en ce moment même à Paris, au Théâtre des Abbesses, une pièce tirée de Babouyek. Donc, Dernière nouvelle du cosmos, c'est à la fois un... film, c'est à la fois une pièce de théâtre et c'est aussi un livre, puisque Babouyek, on y reviendra tout au long de cette émission, a commencé à écrire tardivement dans sa vie, à l'âge de 20 ans. Et un livre vient de sortir aux éditions Rivage, c'est d'ailleurs le texte de Babouyek que je viens de lire en tout début de cette émission, sous le titre « Algorithme éponyme ». Mais je voudrais d'abord qu'on parle de chacun d'entre vous. À votre manière, vous avez inventé une forme d'art à la fois collectif. Pourquoi Julie Bertuccelli, pourquoi vous avez décidé de prendre à bras-le-corps cette discipline qui était le cinéma? C'est pas seulement parce que votre père est cinéaste, Jean-Louis Bertuccelli.
Non, après pourquoi on fait? Je crois que j'avais l'impression que c'était la seule voie pour moi, pour m'exprimer. J'ai fait ça petit à petit. J'ai longtemps été assistante sur des films, longs métrages, avec plein de réalisateurs passionnants, de Kieslowski à Tavernier, en passant par Riti Pan et mon père, Jean-Louis Bertuccelli, et puis plein d'autres, Emmanuel Finkiel. Et puis en fait, petit à petit, j'ai senti que le documentaire était aussi une entrée pour moi. J'avais envie d'explorer le monde vraiment avec mon regard. Et la fiction est venue comme ça, petit à petit aussi, par des envies de raconter une histoire en particulier, pas pour faire la fiction pour elle-même. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais je me sentais pas aller ailleurs. En fait, c'était depuis longtemps, j'avais envie. C'est un peu instinctif, c'est toujours dur de... Pourquoi on va vers là? J'aurais peut-être pu aller ailleurs. C'est vrai que le fait que mon père était réalisateur a sûrement influencé, parce que j'ai vu beaucoup de films, j'étais très marquée, peut-être par cet univers un peu comme ça, fabuleux quand même, d'un tournage quand on est enfant, quand on va sur un plateau, ça reste très marquant. Mais c'est surtout les films et toutes les histoires qui m'ont totalement habité dans mon adolescence et mon enfance qui m'ont donné envie de moi raconter les miennes au bout d'un certain temps.
De raconter les vôtres, mais de raconter aussi les nôtres, puisque je faisais allusion à cette cour de Babel que vous avez donc tournée en 2014. Nous allons tout de suite en entendre un extrait.
J'ai été en colère. Oui. J'ai été très, très triste.
De quitter la Biélorussie.
Oui, parce qu'il y avait un appartement où nous habitions, où nous avons habité. C'était un très bel appartement. Nous avons pris, je sais pas, les 6-5 livres, c'est tout. Parce que je voulais pas, je voulais que l'appartement restait comme il était avant. Je voulais pas prendre.
Le dernier jour, je suis fâché. Je suis pas triste, mais fâché, très fâché. Je suis fâché et je... tire les mots à ma mère et suis pas ajouté.
Pourquoi tu étais fâché?
Juste. Parce que je dis rien à mes amis. C'est pas bouge, qu'est-ce que c'est?
Que tu allais déménager. C'est
oui,
ça?
Oui,
tu
oui,
n'as
oui.
prévenu personne. Tu n'as dit à personne.
Oui, oui, c'est ça.
Que
c'est
tu allais déménager. Miguel.
Je suis contente parce que. Parce que je vais étudier à le conservatoire avec un très bon maestro. Et à Venezuela, c'est très. il y a beaucoup de problèmes. Et il y a. Comment se dit, beaucoup d'insécurité.
Alors, cette cour de Babel a été un véritable miracle. Ça a été un coup de cœur. Ça reste un coup de cœur. Le film est disponible en DVD. Beaucoup, beaucoup de gens l'ont plébiscité pour différentes raisons, je crois, à la fois par votre art cinématographique, à la fois par votre modestie et par ce travail à la fois de sociologue du quotidien et de républicanisme citoyen que vous effectuez, Julie Bertuccelli, en mettant votre caméra dans la cour et dans l'intérieur d'une école du 10e arrondissement à Paris où, comme on vient de l'entendre, eh bien, des élèves du monde entier viennent apprendre le français. Et je crois qu'il y a d'ailleurs des points communs entre ce film magnifique et ce film très récent, Babouyek. C'est une histoire de langue et d'essayer de comprendre les langues des autres, non?
Oui, les langues différentes, aussi nos langues intérieures, puisqu'on ce cas dans lequel on nous met d'être différents, quoi. Que ces enfants exilés, forcés, et Hélène Babouyek, qui elle est dans un autre enfermement, un autre exil avec soi-même, avec son corps, bon, elle est qualifiée de différente et c'est tout l'apprentissage d'arriver à passer au-dessus de ses a priori et un travail sur le langage qui est très fort parce que c'est vrai que ces enfants de cette classe d'accueil vont petit à petit apprendre le français et avoir cette langue commune tout en gardant leur langue d'origine. Mais voilà, c'est aussi ce qui va les faire renaître dans un nouveau pays et Hélène dans son écriture, elle a aussi un vrai travail extraordinaire sur le langage qu'elle nous fait redécouvrir.
Alors quelle est votre approche de documentariste? Comment faites-vous pour vous immerger dans un milieu et pour que finalement on vous oublie pour vous permettre de capter le réel?
Je suis pas sûre qu'on m'oublie, mais c'est comme toujours dans le cinéma direct ou le cinéma comme ça, c'est documentaire, l'important c'est le temps qu'on passe. Et puis cette envie d'être dans une ouverture totale à l'autre, c'est-à-dire d'être dans une sorte de générosité, d'accepter, d'être surpris, d'être dérangé, d'aller vers cette étrangeté que l'autre nous offre dans cette durée. Bon, c'est vrai que la cour de Babel, j'avais tourné pendant une année. Hélène, j'ai suivi sur une période de 2 ans, régulièrement. Puis cette chose d'être avec les gens, enfin, d'être avec eux, de faire ce film. C'est pas qu'on le fait avec eux, mais on est en total, on accepte qu'ils se livrent à nous à certains moments, qu'on veut pas forcer le travail. Et je me laisse porter par leur grande liberté. En tout cas, Babouyek, ça a été un grand voyage vers quelque chose de mystérieux, vers quelque chose que j'avais le sentiment de petit à petit comprendre instinctivement, mais je me suis laissée vraiment porter par elle et on se regardait l'une l'autre. C'était vraiment un échange avec la caméra qui était au milieu de nous deux. Donc je peux pas dire qu'on m'oublie parce qu'on peut jamais oublier une caméra. Puis en plus, c'est pas le but. C'est le but, c'est par contre d'arriver à être au plus près, au plus juste de ce que sont les gens, quoi.
Et dans la cour de Babel, il y avait une leçon de citoyenneté active et il y avait des héros du quotidien comme cette femme qui enseigne et qui le fait parce qu'elle trouve ça naturel, mais elle le fait avec un enthousiasme, une générosité, une compétence absolument exceptionnelle. Et évidemment, elle nous donne des leçons. Est-ce que dans votre cinéma, qui est engagé, Julie Bertuccelli, il y a une espèce d'intention de nous donner un peu d'espoir républicain?
Oui, de l'espoir. Peut-être pas des leçons, en tout cas, mais de l'espoir. Parce que c'est vrai que On peut, sur tous les sujets, on peut toujours montrer la face noire d'une réalité. Hein. Et d'ailleurs, on le fait toujours un peu, je veux dire, d'ailleurs, dans
oui,
le Tour de Babel.
Vous,
c'est,
pas vous.
Ben, je le montre un petit peu, mais c'est vrai que j'ai envie plutôt d'ouvrir vers ce qui est possible, parce que je trouve que c'est là où on est plus fort et où on donne plus de force aux autres pour lutter, pour avancer, pour progresser, s'inspirer des choses bien qui se font. C'est vrai que moi-même, je suis très vite anéantie par la noirceur du monde, des informations, de tout ce qu'on nous montre en noir. Pas pour autant, il faut montrer que... voilà, faire croire à des choses illusoirement positives, mais quand c'est vrai, quand il y a des choses fortes qui se font et avec une énergie et un truc vraiment très positif, j'ai envie d'être portée par ça et d'ouvrir cette porte là, en tout cas. Donc ça, c'est ça qui m'inspire le plus. J'ai pas toujours, même si bon, dans mes fictions parfois il y a de la noirceur, et même dans la Cour de Babel on voit bien que c'est pas des destins faciles, mais j'ai pas envie de fermer, parce que la vie n'est pas fermée. Enfin, j'ai beaucoup, même si je suis très pessimiste, j'ai quand même voilà, j'aime bien être déçu en bien, comme disent les Suisses. C'est quand même c'est cette petite ouverture qui moi me nourrit, qui me fait avancer, qui me donne envie de filmer les gens. Oui, c'est vrai que je choisis et Hélène et Véronique sont aussi un exemple extraordinaire. C'est dans ce monde de l'autisme et de toutes ces choses difficiles, je pense qu'elles ouvrent des portes extraordinaires et beaucoup, beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens. Donc j'ai plutôt envie de montrer ça que, voilà. Je pense que c'est ça qui fait avancer le monde. Enfin, en tout cas, le mien.
Vous ne vous trompez guère sur les gens que vous rencontrez. Nous allons écouter la voix d'une femme qui, hélas, a disparu, mais qui nous a donné beaucoup. Vous avez fait un très beau portrait d'Antoinette Fouque, qui a fondé donc cette maison d'édition des femmes et qui a animé un des grands courants du mouvement féministe français. Nous allons l'écouter dans le portrait que vous avez fait d'elle.
Je crois que l'expression « femme au foyer » est une expression qu'on trouve sous la plume d'Hitler, de Mussolini, des régimes fascistes qui renvoient les femmes au plus ancien des esclavages, avec le grillon, avec le chien, avec le chat, comme un animal domestique. Vous savez, on dit encore en France, parfois, pour une femme qui ne va pas travailler à une usine ou au bureau, elle ne travaille pas. Ce qui veut bien dire que le travail au foyer n'est pas considéré. Ce que nous avons voulu exprimer, nous, femmes du MLF, c'est que les femmes devaient avoir droit à leur propre corps, à leur force de travail, et que l'expression « femme au foyer » recouvre encore aujourd'hui, économiquement, politiquement, idéologiquement, une situation d'esclavage, et que le retour à une telle situation est proprement rétrograde, régressif, réactionnaire.
Alors, féministe, vous aussi, Julie Bertuccelli ?
Oh, je sais pas, c'est un grand mot. En tout cas, je suis née du féminisme. Je suis portée par toute cette période-là. Donc, c'est sûr que j'en suis totalement imprégnée et complètement préoccupée de ça.
Ce sont des femmes que vous filmez.
Oui, je filme beaucoup de portraits de femmes. Oui, c'est sûr. Je pense que je suis féministe. Mais après, je suis pas, pour tous les sujets, je me sens pas une militante de principe. C'est vraiment à chaque cas, à chaque moment où tout d'un coup ça doit s'imposer. C'est pas un principe de départ, même s'il faut. Enfin, je veux dire, il y a aussi les principes de parité que je défends dans tout ce que je fais à côté sur.
Oui, parce que vous avez été la première présidente d'une institution prestigieuse qui était la SCAM. Vous êtes vice-présidente de la société de l'ARP. Et donc, vous occupez des fonctions institutionnelles en étant la première.
Oui, et puis en essayant de, effectivement, que les femmes aient vraiment leur place dans un milieu où, historiquement, elles n'en ont pas eu, donc il y en a peu, et voilà, et c'est tout un chemin encore très grand à faire, et donc c'est sûr qu'il y a des principes qu'il faut défendre. Après, il faut pas non plus être bêtement sur des principes, tout doit toujours s'adapter, mais quand même, il y a des jours où il y a des moments dans l'histoire et où il faut imposer des choses tant que c'est pas évident, quoi. Tant qu'on pourra noter que je suis la première femme à être présidente ou que là, je suis la seule. Alors là, c'est pas normal. On pourrait pas dire ça de n'importe quel homme, donc c'est donc qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, oui, je suis féministe, mais pas voilà. En tout cas, j'étais enchantée de faire ce film sur Antoinette Fouque et sur une période qui était à ma naissance, donc je connaissais à peine. J'étais une mère évidemment dans ce genre de mouvance, mais c'était important pour moi d'y voir plus clair, de comprendre un peu mieux d'où je viens. Et à un moment où il y a beaucoup de régression encore, donc on n'est pas
en sortie de l'auberge. Les féministes se portent pas bien.
Non, elles se portent pas bien. Oui.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical commun de Julie Bertuccelli et Pierre Meunier, c'est Johnny Cash, Hurt.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles. Find a way.
Pourquoi ce choix, Pierre Meunier, de Johnny Cash? C'est toujours bien à réentendre, hein, Johnny Cash.
C'est une atmosphère que nous a apporté Jean-François Povros, guitariste, improvisateur, qui est avec nous sur le plateau dans Forbidden This Port Jersey. Et Jean-François chantait très souvent cette chanson pendant le travail, en fait, et ça nous mettait dans un sorte d'état, bien, une espèce d'ouverture à la fois tranquille et féconde. Voilà, donc c'est en rapport avec le processus du spectacle. Et...
Alors, comment et pourquoi êtes-vous devenu metteur en scène, même si vous êtes à la fois acteur, auteur? On vous avait découvert il y a quelques années, c'était il y a longtemps, en 96, avec, je crois, L'Homme de plein vent. Ensuite, il y a eu beaucoup de spectacles, généralement seuls, des monologues. Je me souviens, au Théâtre de la Bastille, d'un monologue absolument incroyable qui s'intitulait Le Tas, de votre conversation avec des pierres, de...
C'était au milieu du désordre.
Au milieu du désordre, qui est un texte aussi que vous avez écrit. Et petit à petit, on a l'impression que vous avez glané dans le milieu théâtral à différentes disciplines pour construire votre propre art. Est-ce vrai? On parlait tout à l'heure du cirque, on parlait de la performance, et petit à petit, vous êtes alimenté aussi beaucoup à la recherche scientifique actuelle.
Oui. Alors, ce glanage, il est instinctif, il est intuitif. C'est vrai, et puis...
Depuis que vous êtes tout petit, vous avez besoin de savoir des tas de choses dans différents domaines.
Non. Non, pas vraiment. Non, c'est plutôt une espèce de d'évolution qui m'a mené plutôt du statut d'acteur et de la joie de jouer et d'interpréter pour les autres à une envie de travailler, d'explorer des questionnements qui ont commencé à me tenir éveillé, quoi, et puis à me passionner.
Et puis vous travaillez dans des endroits où généralement les metteurs en scène travaillent peu. C'est-à-dire que vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans des endroits où on écoute les gens, exactement comme Julie Bertuccelli le fait dans des écoles. Vous allez écouter les autres là où la parole n'est pas forcément évidente, là où la parole doit se déclore, quoi. Elle doit être décryptée.
Oui, c'est vrai que dans ce travail que j'avais fait avec des patients psychiatriques de l'hôpital d'Ennay-le-Château, dans l'Allier, à partir de textes écrits par eux, ce qui m'avait énormément ému et apporté, c'était d'éprouver la nécessité pour eux, le privilège que finalement revêtait la possibilité de parler devant les autres, c'est-à-dire de faire du théâtre, sous les lumières, de dire « je », avec leur monde à eux qui pouvait soudain s'épanouir et être entendu. Et cette soif qu'ils avaient, et comment ça les animait, comment ça les réveillait de cette léthargie existentielle dans laquelle ils sont plongés la plupart du temps, ça m'avait beaucoup évidemment touché et puis questionné sur moi, on fait du théâtre, mais est-ce que... Où est la nécessité? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que si on m'en privait, je ferais tout néanmoins pour péter ce qui m'en empêcherait et en faire quand même? Et voilà, et je pense que je serais capable de casser pas mal de choses pour continuer à faire du théâtre, oui.
Mais vous transgressez les limites habituelles du théâtre parce que vous introduisez aussi une réflexion existentielle de la métaphysique, de la philosophie, un questionnement sur les origines et aussi sur les limites matérielles de notre propre corps. Vous êtes très passionné par tout ce qui délimite notre propre corps. Et d'ailleurs, on n'est pas très loin de Babouillec. À qui appartient un corps? Appartient-on vraiment à son corps? Notre corps nous appartient-il? Qu'est-ce qui fait qu'on est verticaux sur la Terre? Habite-t-on vraiment la Terre? Et on sent bien, chez vous, Pierre Meunier, qu'il y a une réflexion de tous les instants que vous montrez sur un plateau de théâtre.
Oui, c'est-à-dire que avant la réflexion, il y a ce que j'éprouve, moi, et d'une manière peut-être un peu plus aiguë que d'autres. Et
comme un enfant.
Comme un enfant.
Oui. On a des questions comme ça dans l'enfance, on vieillit, on oublie ces questions-là.
D'étonnement, oui. Pourquoi est-ce que mon bras pèse si lourd? Pourquoi est-ce que je mets tant de temps à me lever? Pourquoi est-ce que, lorsque je me lève, les pieds continuent à toucher le sol, alors que je serais bien parti pour décoller? Mais non, ça ne décolle pas. Pourquoi? Et tout ce que ça entraîne, cette conscience sensible de la pesanteur qui aussi affecte, par exemple, forcément la pensée et la lourdeur de la pensée, et le faible essor de notre imagination, ou le trop faible essor de mon imagination. Enfin, voilà, ça me parle tout de suite de ça. Ça me questionne là-dessus. Et c'est vrai que la rencontre avec Babouillec a été, s'est faite beaucoup sur cette question de la limite, en effet, qui est essentielle pour Babouillec. Quand elle dit à qui faut-il ressembler, appartenir, quel modèle de pensée faut-il retenir, sommes-nous dépendants de la loi des limites? Bon, voilà, c'est une question pour moi centrale, oui.
Alors, cette loi des limites, justement, vous la transgressez depuis deux bonnes décennies dans l'art que vous avez inventé, Pierre Meunier, un art qui est nourri sans arrêt par des recherches scientifiques actuelles que vous convoquez sur le plateau du théâtre. Nous allons écouter la voix de Thibaut Damour, que vous connaissez peut-être, grand scientifique, spécialiste des trous noirs. Nous allons l'écouter parler des pulsars et des trous noirs. Et nous allons tout de suite après écouter un extrait d'un atelier fiction que vous aviez fait en 2012 à la suite d'une expérience tout à fait incroyable. Vous avez eu la possibilité, dans le cadre du CNES, d'aller dans un avion.
Un avion, oui.
Vous affranchir de toutes les pesanteurs.
Oui, c'est ça, de me retrouver en microgravité dans des paraboles qu'effectue cet avion. 20 secondes à chaque parabole de miracle absolu, d'apesanteur, quoi.
Eh ben, on décolle, on s'envole avec vous, d'abord avec Thibaut Damour.
Un pulsar, c'est une boule de matière ultra dense qui tourne très vite, donc ça, c'est assez facile à imaginer. Ça, c'est un pulsar isolé, un pulsar double ou binaire, ce sont deux boules de matière, chaque boule est à la taille de Paris, elle tourne en 30 millisecondes sur elle-même, donc très rapidement, comme si on faisait le tour du périph' en 30 millisecondes, donc à grande vitesse. Et en plus, ils orbitent l'un autour de l'autre, quand on a un système comme ça double, là aussi avec des vitesses beaucoup plus grandes que la vitesse de la Terre autour du Soleil, d'ailleurs assez rapide. Pour un trou noir, c'est quelque chose de plus abstrait, mais pour arriver à penser la physique du trou noir, il faut aussi s'imaginer, par exemple, que l'on tombe dans un trou noir. Parce que un trou noir, c'est une région de l'espace dans laquelle on peut rentrer, mais de laquelle on ne peut jamais sortir. Mais on peut rentrer. Une fois qu'on est rentré, notre sort est d'ailleurs pas complètement connu, mais ça se termine mal très rapidement. C'est-à-dire en quelques millisecondes, tout l'espace disparaît et le temps, comme on dit vulgairement, cesse d'exister très rapidement à l'intérieur du trou noir.
On prend un caillou, on jette le caillou monte, puis descend, c'est ce qu'on va faire. Pas plus, pas moins. Qu'une parabole dans son cycle complet, ça va être, on pèse deux fois notre poids, on pèse plus rien, et on pèse deux fois notre poids. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes.
Le temps d'une parabole dans le ciel, à l'abri de l'air, dans une boîte à deux ailes appelée Airbus 0G et qui tombe, mon poids devient transparent. Car dans cette boîte, je tombe à la même vitesse que ce qui me contient. Je tombe du ciel dans l'ignorance de ma propre chute. C'est peut-être ça le bonheur, une inversion décisive. Devenu caduc, la question du haut et du bas n'arrive plus à se poser. La contrainte gravitaire disparue. Avec elle s'évanouit la nécessité de lui résister au travers de postures, réflexes et autres mouvements conservatoires d'équilibre qui nous épuisent. Être debout épuise. Parce que pour exister, il faut tenir debout, jour après jour, et pas seulement en avoir l'air.
Alors, être debout épuise, on vient de vous entendre, Pierre Meunier, dans cette création radiophonique qui décrit bien votre type de travail depuis pas mal de temps. Et quand on voit le film de Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, et qu'on voit la manière dont vous, Julie, vous êtes approchée de cette jeune femme de 20 ans, qui s'appelle donc Hélène, qui est surnommée Babouyek, on se dit que on ne sait pas si on est vraiment debout. On se demande si on n'est pas dans un autre monde, nous qui connaissons pas le monde d'Hélène. Il se trouve qu'Hélène, dite Babouyek, a commencé à nous dire son rapport au monde très tardivement, quand elle avait en gros 20 ans. Et dans ce film, où vous filmez toutes les métamorphoses de Hélène Babouyek, eh bien, on voit aussi Pierre Meunier qui, dans le dernier tiers, apparaît. Il apparaît pourquoi ? Parce que il va s'approcher d'Hélène Babouyek, et il va, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même grâce au miracle du théâtre, et bien grâce au texte qu'a réussi à écrire Hélène dite Babouyek, et bien Pierre Meunier a trouvé la possibilité sur un plateau de théâtre de rendre l'intériorité du monde de Babouyek. Comment s'est passée la première rencontre avec Hélène? Et comment l'avez-vous perçue, cette Hélène? Est-ce que vous étiez debout ou est-ce qu'elle vous a fait tomber à la renverse, Julie Bertuccelli?
Ah oui, elle m'a fait tomber à la renverse. Et c'est grâce à Pierre que je l'ai rencontrée, Hélène, parce que c'est lui qui l'avait... rencontré sur, bon, il vous racontera sur un spectacle autour du langage. Et donc moi j'étais là un soir où elle était venue voir son spectacle du fond des gorges. Et son écriture, ses textes que j'avais déjà lus avant m'ont totalement sidérée. Parce que c'est sûr qu'on se dit debout, mais elle perçoit notre monde, notre monde commun. Elle n'est pas du tout dans un autre monde, mais elle a une acuité et un humour et une intelligence sidérante. Donc c'est sûr que j'ai été renversée et que de savoir qu'ils allaient faire ensemble un spectacle, enfin en tout cas que Pierre Meunier et Marguerite Borda allaient s'inspirer de son texte Algorithme éponyme pour en faire en matière, en impression, en métaphore visuelle aussi, un spectacle. Je me suis dit que ça serait le moment idéal de faire le portrait de cette grande artiste et cette poète qui est Babouille Agpa. Bon, il se trouve qu'elle est autiste, bien sûr, et que c'est quelque chose d'important dans cette perception qu'elle a du monde, mais c'était cette artiste que je voulais filmer parce que son écriture est d'une densité et nous met dans un état d'handicapé et de limité. Et puisque Pierre travaille beaucoup sur tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous ralentit, et que effectivement leur monde se rejoigne très bien, je trouvais que c'était vraiment passionnant de les voir travailler ensemble. Et donc ce spectacle Forbidden Disport Jersey est vraiment aussi l'occasion pour moi d'entendre ces textes, de faire partager ce que Hélène nous révèle de nous-mêmes, quoi.
Voilà. Nous allons écouter un extrait de votre film Dernière nouvelle du cosmos, suivi de la chanson de la fin de votre film.
C'est un coq.
C'est une coque.
C'est le rassemblement. Tu regardes, comment tu fais là? Parce que t'as mis un i. Tu gardes le i.
Verticalité. Ni entière, ni uniformisée machine ne libérera notre verticalité soumise.
Insoumise.
Insoumise. Puis non, c'est un sacré programme, ça.
Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent les sorties de ton cerveau. Silence est ton pseudo. Dans ta boîte à caboche, chaque groove des pétales de rose. Et ta gueule grande ouverte, et ta gueule grande ouverte. Arrivée des sons denses dans les tuneurs de tympan. Tube fluorescent fumé dense ressort, chauffé à blanc. Comme dans une boîte à musique, ça cogne de partout. Boulons mal réglés, effet multi qui de nous est le plus fou.
Les entends-tu, ces mots du silence qui traversent ta matière en cascade lumineuse? Lentement, ils écrivent ta perception du monde et affranchissent tes états d'être éclaté, morcelé, loin de ton être profond. Tu trouves ton oiseau de liberté. Nourri de l'envol, tu entends le silence du mystère trimballant les mots de la poésie hurlée, des lettres où se cachent tes errances, tes doutes, ta belle folie. Être aimé de ce monde qui m'échappe, m'évite, se moque de mon appétit, de la beauté qui fuit vos yeux comme une étoile filante, me manque. Cette traînée de poudre dans le bâton des fées remplit mon univers en haut du gratte-ciel, soumis à mon imaginaire avec volupté. Sommes-nous des aliénés de votre enfermement? Sommes-nous le reflet maudit de la désillusion, le reflet maudit de la peine à assumer que l'on nous renvoie? C'est ce qu'écrit Babouillec dans ce texte qui vient d'être publié par les éditions Rivage, qui s'intitule donc « Algorithmes éponymes et autres textes ». Mais qui est Babouillec, Pierre Meunier?
Babouillec, c'est une personne de très haut vol qui...
C'est une histoire de dingue.
Mais oui, on peut dire, parce qu'elle est, tellement, je dirais...
Géniale.
Géniale, oui, et je dirais pas loin de nous, elle est justement... Elle pointe avec tellement de profondeur tout ce qu'on s'inflige, je dirais, avec beaucoup de compassion pour nous. Elle a beaucoup de compassion pour nous et pour cette espèce de nivellement, d'écrasement de l'imaginaire, de la mise en boîte, de la mise aux normes de nos capacités. Tout ça, évidemment, pour être socialement digeste, pour être aimable, pour être achetable, pour être voilà, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer d'une forme d'intégration. Et elle a refusé les codes pendant 20 années. Elle a refusé les codes, sans doute.
Donc les médecins l'ont qualifiée d'autiste.
Autiste, oui, et déficitaire, et avec quasiment aucune chance de résilience. Donc elle avait été diagnostiquée et condamnée, très très durement, on peut dire. Donc là, il y a une énigme aussi, évidemment, et puis un questionnement, je pense, qui doit saisir les instances qui ont délivré ce genre de diagnostic, parce que c'est carrément le monde à l'envers, on peut dire. Enfin, c'est à la fois très grave et c'est qu'un tel trésor humain ait été décrété déchet, pour ainsi dire. Avant qu'évidemment il y ait eu tout ce temps et cette attention de Véronique, de sa mère, pour peu à peu mettre en place un dispositif d'écriture, découvrir qu'elle avait appris à lire toute seule, et puis ensuite avec infiniment de patience, jour après jour, peu à peu, de permettre à Hélène Babouillec d'écrire, de délivrer sa pensée, quoi, la puissance de sa pensée.
Alors Hélène Babouillec a une mère extraordinaire que Julie vous filmez avec beaucoup d'émotion, et cette mère extraordinaire va se rendre compte à l'âge de 18 ans seulement, alors que tout le monde dit que Hélène Babouillec ne sait ni lire ni écrire et que c'est une débile. Elle va s'apercevoir que elle a appris à lire et sa mère va lui constituer un alphabet à partir duquel, sur une grande table, elle va composer à écrire des fragments de poésie fulgurante, de bouts de métaphysique, de philosophie et effectivement de compassion pour nous qui sommes dans la catégorie dite normale.
Voilà. Oui, en effet, c'est une boîte de petites lettres plastifiées que Hélène prend une par une, lettre par lettre, et dispose sur un grand carré blanc. Et elle le fait d'ailleurs de plus en plus précisément, de plus en plus rapidement maintenant. Mais toujours, donc il y a toujours un travail, c'est lié à un travail du corps en fait. Enfin, le travail d'écriture est complètement physique. Elle, pour l'instant, elle ne désire pas passer au clavier ou à des choses comme ça. Et c'est sans doute que cette énergie qu'elle met dans la fabrication du langage lui est nécessaire. Et c'est un vrai travail que de la voir comme ça, lettre après lettre, disposer ces phrases absolument lumineuses, comme par exemple celle-ci qui était centrale un peu dans le travail. C'est mystérieusement les soifs d'aventure s'autocensurent. Oui. Hein, alors ça. Quand on lit ça, on le prend en plein dans le buffet, quoi, hein, parce que à tous les niveaux, quoi. Mystérieusement, les soifs d'aventure s'autocensurent. Bah oui. Donc c'est vertigineux, quoi, comme ce que ça ouvre, hein, comme question et comme mélancolie et comme riposte possible aussi, comme mobilisation, comme remobilisation peut-être de soi-même et d'un collectif, je sais pas, enfin justement pour retenter, pour re-oser des aventures coûte que coûte.
Et vous qui l'avez découvert, donc vous avez très vite décidé qu'avec sa poésie, on peut appeler ça de la poésie.
Oui, bien sûr, oui.
Vous alliez essayer de transcrire son univers mental, psychique et sa joie de vivre, parce que ce qui est très frappant dans le film que vous avez réussi à faire, Julie Bertuccelli, c'est la beauté d'Hélène Babouillec, c'est cette espèce de plénitude et de côté solaire de rapport au monde.
Mais oui.
Elle est à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer sur les clichés de l'autisme.
Absolument, et elle n'est à aucun moment dans la plainte ou sur son propre sort. Et c'est cette force-là, en fait, qu'on peut dire complètement partagée avec Marguerite Borda, donc avec qui on a tous les deux assuré vraiment la création de ce spectacle. Et on a beaucoup pendant des mois, on peut dire, on s'est immergé dans ce texte qui conserve d'ailleurs une part énigmatique, hein, par moment, qui se livre pas forcément facilement. Mais néanmoins, c'est sous-tendu par une telle une force qui reste mystérieuse que on ne peut pas s'en lasser. Enfin, et il y a quelque chose d'incontestable dans cette écriture. Je dirais, ça vient d'un endroit qu'on ne peut pas remettre en doute. Ça n'est en aucun cas quelqu'un qui voudrait être écrivain ou qui voudrait donner les preuves d'une capacité à écrire. Non, c'est une pensée extrêmement puissante qui se déroule et qui vient au monde, quoi. Et ça, c'est une révélation énorme, quoi. Parce que ça a une puissance contagieuse, stimulante et, comme vous dites, jubilatoire. Il y a une très grande gaieté. Hélène, elle a un rire qui balaye tout. Et qui nous... Vous voyez.
Julie Bertuccelli, ce que vous avez réussi à capter, d'ailleurs, à un moment, on voit le début du travail entre vous, Pierre Meunier, et Babouillec, qui semble d'accord pour qu'on commence à comprendre ces textes, à les transcrire sur un plateau de théâtre. On voit qu'elle approuve, elle ne peut pas parler, et cependant, elle s'exprime.
Oui, elle se gêne en rien. C'est-à-dire que si vraiment quelque chose l'emmerde, si elle a faim, si elle a envie de quelque chose, elle y va. Si elle s'ennuie, elle s'en va. Si on la dérange, elle peut nous pousser. Je veux dire, elle est très très claire. Son corps exprime beaucoup. Si évidemment on sait l'entendre, si on sait la regarder, mais quand on commence un peu à la connaître, on n'a aucune inquiétude que si elle approuve, elle approuve, quoi. Et bien sûr qu'on a. Il y a eu des échanges, des écrits ensemble. Et pour faire le spectacle et pour faire le film ensemble, mais en plus elle est très elle nous pousse vers une telle liberté que on n'a pas peur de la, je trouve qu'on, enfin moi j'ai jamais eu peur de la déranger parce que j'avais confiance totale dans la confiance qu'elle avait en moi et dans sa réactivité possible, donc c'est très puissant d'être à côté d'elle. Et puis moi, pour la filmer, bon, c'est évidemment un autre chemin qu'on a fait. Pierre a fait un autre travail avec elle, mais moi, de la filmer, d'être constamment à ses côtés, de l'observer, voilà. Puis en plus, elle parle beaucoup de la caméra. Je lui ai posé des questions et dans le film, elle parle beaucoup de mon œil goguenard et de mon œil coquin et du fait que je suis toujours là à la regarder et qu'elle aime ça et qu'elle se dit filmomagnétique et qu'elle a un vrai bonheur aussi à être filmée. C'est quelque chose qui nous porte, quoi. C'est une grâce. Moi, j'étais en état de grâce pendant ce film. Souvent, pour tous mes documentaires, je cadre moi-même et donc c'est une chose très instinctive, le cadrage. Mais alors là, j'ai rarement eu autant de rushs magnifiques parce que c'était chaque fois jamais un plan raté, toujours une osmose incroyable, des choses miraculeuses, quoi. Un mouvement qu'on fait de caméra qui arrive au bon moment, tout d'un coup, elle se retourne, elle regarde. Je sais pas, il y avait une danse chorégraphique entre nous qui était assez subjugante. Donc je pense qu'on était en vrai, alors elle se dit télé pattes et je pense qu'on avait un rapport très intense de ce côté-là, effectivement. Donc, elle se dit, et je pense qu'elle l'est d'ailleurs, mais tout ça pour dire que ça passe outre la parole. Évidemment, elle écrit quand elle veut et on peut lui poser une question, elle prend ses lettres, elle nous répond, mais en plus, se joue des choses, on sait décrypter ses regards, même si elle a parfois des yeux qui partent, qui voyagent, mais elle est quand même toujours très très là. D'ailleurs, si on prend le temps de l'observer, ça mouline tout le temps, quoi. Elle est tout le temps en ébullition, en train de penser, de regarder, de percevoir, d'entendre. Enfin, moi, je l'imagine, je pense un peu, ça me rappelle des souvenirs d'enfance de Wonder Woman, quoi, qui entend les sons très loin, tac, 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 puis tout est là. Elle entend les animaux, elle entend la nature parler, elle est en communication totale, quoi. Donc, c'est très c'est poétique et très fort à voir.
Alors... elle est une vraie incitation à la liberté, à la liberté. Et c'était ça un peu l'inquiétude durant la fabrication du spectacle avec Marguerite Borda. C'était, est-ce qu'on serait à la hauteur théâtralement de cette liberté qui est souveraine, enfin qui a une telle lumière, quoi, un tel éclat. Elle manifeste dans sa pensée.
Mais justement, vous l'avez été, Pierre Meunier. Julie Bertuccelli l'a été dans son film. Mais vous aussi, avec les moyens du théâtre, vous avez inventé des dispositifs qui font que quand on lit ce texte de Babouillec, Algorithme éponyme, et qu'on voit votre spectacle qui a lieu en ce moment même au Théâtre des Abbesses, on a vraiment l'impression d'être dans sa tête.
Ah, mais ça, c'est... Ça, c'est magnifique, alors, si ça produit ça, parce que on s'est en effet souvent dit que le plateau, on se retrouvait au cœur d'un cerveau qui pourrait être celui d'Hélène, évidemment, avec fracas, manifestations chaotiques, jubilatoires, moteurs dézingués, mais en même temps une espèce de fête de la pensée, quoi, et de l'imaginaire.
Alors Babouillec a été un très grand succès au Festival d'Avignon. Ce qui se passe en ce moment à Paris au Théâtre des Abbesses se confirme. Il y a non seulement la reconnaissance pour Babouillec, mais l'espèce de découverte, comme on a pu en avoir il y a longtemps pour l'art brut. Est-ce que ça va encourager Babouillec à aller encore plus loin et à nous livrer des fragments supplémentaires de son monde?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je crois que ça lui donne une confiance, en tout cas. Mais elle s'arrête pas, hein. Là, elle vient d'écrire un livret d'opéra sur une proposition d'un compositeur, Stéphane Litch. Et ce livret s'appelle « Le métronome de nos errances ». Il y a quelqu'un qui pouvait inventer un titre pareil. Et voilà où c'est un dialogue enfin extraordinaire entre quatre personnes sur la nécessité de péter les cadres et la norme pour aboutir à un accord supérieur que celui auquel on accéderait en respectant la norme et la mesure. Voilà, ça débat de ça, tout simplement.
Je me sens égoïste de vivre dans cet émerveillement de la vie où tout s'éclaire comme un feu d'artifice dans la chaleur de l'exaltation, la légèreté de l'étonnement, l'éblouissement du tendre bonheur. Je suis libre dans ma tête et ce souffle qui porte la vie, je l'ai en moi et dans le silence du fond de mon corps, je pousse ce cri. Il va falloir donc vivre avec Babouillec, vive Babouillec. Merci beaucoup Pierre Meunier. C'est au Théâtre des Abbesses en ce moment même à Paris. Quant au film de Julie Bertuccelli, eh bien, on peut le voir, il s'intitule « Dernière nouvelle du cosmos ».
Et il sort en DVD bientôt aussi.
Écoutez dans l'heure bleue ce soir Michael Kiwanuka, One More Night, Johnny Cash grâce à Julie Bertuccelli et Pierre Meunier et Vaudou Game et puis aussi Monsieur Roux, parole de Babouillec. Et puis j'oubliais de vous dire bonne chance pour les Césars, là, Julie
merci,
Bertuccelli,
oui, oui. Hein,
j'espère que vous allez l'emporter.
Oh, peu de chance, mais c'est déjà génial.
Bah, en tout cas, on pense à vous.
Merci.
Merci à Thierry Dupin. Cette émission a été réalisée par Véronique Barnet, préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazar et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Nicolas Slimani. Merci à toutes et à tous. Et après le journal, vous retrouverez comme chaque soir, eh bien, notre ami Mishka pour un very good trip.